tous. Une première matinale avec l'aumônerie des prisons, l'aumônerie de la Fédération protestante de France. Alors, je reçois Olivier Villebrun.
Bonjour.
Et Samuel Wagner.
Bonjour.
Voilà, qui sont aumôniers, qui sont membres de l'église Clé, qui est une église protestante de Montpellier, une église évangélique, membre de la Fédération protestante de France, et au micro, Yolande, donc pour animer cette première émission, ce premier rendez-vous sur l'aumônerie. Alors, l'aumônerie des prisons, qu'est-ce que c'est d'abord? Qui est-ce qui gère tout ça? Alors, peut-être Olivier d'abord.
Donc, l'aumônerie de prison, c'est l'État qui a mis ça en place parce que les personnes en situation de détention ou dans les hôpitaux ou ceux qui travaillent dans l'armée ne peuvent pas aller au culte de leur choix. Du coup, le ministère a mis en place des aumôneries pour permettre à ces personnes d'avoir accès au culte, d'avoir accès à la religion, au travers des aumôniers. Donc, nous, on sert en prison, parce qu'en prison, bah, forcément, les détenus ne peuvent pas aller à l'église le dimanche, par exemple. Donc, on vient pour combler ce manque.
Et alors, vous êtes sept aumôniers de Montpellier.
Oui, exactement. On est sept aumôniers de Montpellier. En fait, moi, j'ai rejoint l'équipe il y a environ 3 ans. Et puis, on a la chance d'avoir une grande équipe. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de prisons où souvent c'est un seul aumônier ou deux aumôniers. Et nous, on a la chance d'être une super équipe. Mmh. Ce qui permet, comme on est tous bénévoles, de se relayer, de pouvoir avoir plusieurs activités dans la semaine, de pouvoir faire des visites régulièrement et de pouvoir être présent quand même assez régulièrement à la prison.
Oui, parce que vous dites vous êtes bénévole et juste avant, Olivier, vous avez dit l'État organise ça. Mais donc l'État ne vous rétribue pas, vous êtes...
Alors si, l'État a des financements pour toutes les aumôneries, financements adaptés en fonction du nombre de membres, de pratiquants dans les prisons. Alors l'aumônerie chrétienne, que ce soit catholique ou protestante, ne rémunère pas en direct les aumôniers. L'argent, en fait, il est collectif pour payer les frais de déplacement de tous les aumôniers, pour payer les formations. Il est mis à disposition justement pour lancer des nouveaux aumôniers et les former en continu. Mais du coup, on ne perçoit pas de salaire à proprement parler. Voilà. Ce qui est les musulmans, par exemple, eux, ils ont un fonctionnement différent, où eux, ils ont carrément une vacation. Mais voilà, chaque aumônerie fonctionne comme elle le veut, avec l'argent que lui verse l'État.
Et c'est pas difficile d'être bénévole quand on est jeune comme vous l'êtes, Samuel?
Alors, moi, j'ai un emploi du temps qui me permet de pouvoir prendre du temps pour ça. Et pour ma part, ça fait partie de mes convictions, ça fait partie de mon chemin de vie. Donc, au contraire, c'est un plaisir de pouvoir le faire et de pouvoir amener, apporter les petites pierres que je peux apporter à ces personnes que je rencontre en prison.
Alors la Fédération protestante de France, donc on va en parler rapidement pour présenter pour les auditeurs qui n'auraient pas l'occasion de rencontrer. On va en parler très rapidement parce qu'on en a quand même souvent parlé ici à ce micro. Alors la Fédération protestante de France, qu'est-ce que c'est, Olivier?
Donc, elle regroupe toutes les mouvances protestantes, toutes les églises de différentes dénominations. Et ce qui est fantastique, c'est que du coup, nous on le voit bien, notamment en prison, c'est qu'à la fois, il y a l'église luthéro-réformée qui est là, il y a l'église évangélique qui est là, il y a aussi la communauté des tziganes, on n'en a pas parlé, mais notamment en prison, il y a beaucoup d'aumôniers tziganes aussi qui interviennent, auprès notamment des communautés tziganes qui sont en prison. Et eux, ils sont aussi rattachés à la Fédération protestante de France. Donc du coup, on va dire, ce qui est super, c'est que en tout cas pour l'aumônerie, c'est un endroit où on peut vraiment exercer un ministère commun entre toutes les familles protestantes. Et moi, j'avoue que depuis que je travaille en prison, j'ai pu côtoyer notamment deux collègues aumôniers qui étaient plutôt réformés, dont Daniel Musso, qui était avant moi et qui a été là pendant 17 ans. Et j'ai pu aussi travailler avec Eva Noquet, qui était aussi pendant 2 ans sur Montpellier. Et franchement, c'était d'une richesse incroyable de pouvoir voir cette diversité protestante porter du fruit aussi en prison. Et j'avoue que je ne l'avais pas vécu avant de travailler en prison. Donc ça, c'est la force aussi de cette fédération protestante qui permet de pouvoir apporter... chacun peut apporter sa pierre à l'édifice avec chacun nos sensibilités. Et finalement, quand on vit cette unité, c'est vraiment une force, notamment nous, pour les détenus, ou même pour la ville, pour notre ville, ou pour... la société en général.
Oui, parce que, bon, je le répète, la Fédération protestante de France n'est pas un organisme cultuel en tant que tel. C'est-à-dire que la Fédération protestante de France n'organise pas un culte. Elle ne fait pas des cérémonies, mais c'est une association loi 1901 qui regroupe un certain nombre d'églises protestantes. Pas toutes, puisque il y en a qui ne rentrent pas dans cette fédération. Alors, il y a effectivement les PUDF, l'église luthéro-réformée, et puis il y a un certain nombre d'églises évangéliques, les tziganes, l'armée du salut, par exemple, et puis des œuvres, la CIMAD, des mouvements. Voilà. Et donc, elle organise... Alors, la fédération protestante, c'est le lieu où les gens peuvent discuter. Et comme m'a dit ici le secrétaire général, c'est aussi le lieu où les gens peuvent s'engueuler. En général, ce sont des problèmes de théologie qui n'intéressent que les théologiens. Et justement, vous dites, ce qui est intéressant, que quand on est sur le terrain, eh bien, ces problèmes-là... Enfin, sont relégués au second plan. C'est bien ça, Samuel ? Vous l'avez ressenti ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'a pas le luxe de se payer ces problèmes, en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être solidaires les uns des autres parce qu'on est tous face aux mêmes détenus, aux mêmes personnes, aux mêmes situations. Et c'est là où on voit que finalement, nos différences théologiques, déjà, premièrement, je pense que ça peut être une richesse plutôt que d'être une division. Et ce qu'on apporte, chacun apporte quelque chose de bon en fait. Chacun apporte quelque chose de bon à ces personnes-là. Et je pense que c'est important de réaliser ça, d'en prendre conscience et de travailler ensemble.
Donc pas de gros quoi que au moins au niveau des problèmes théologiques, il peut y avoir des différences de personnalité, je suppose. Comme
oui,
partout.
C'est ça. Oui, voilà. Après même dans l'équipe, nous on est 7 aumôniers, on a déjà nos petits conflits internes aussi.
Ouais, c'est vrai.
Mais après voilà, encore une fois, c'est ça qui est intéressant. Je trouve que justement chacun a une sensibilité différente et on a tous quelque chose à amener en fait. On est aussi face à des personnes qui ont tous des sensibilités différentes. Donc ce que moi je vais apporter, peut-être qu'Olivier ne pourra pas l'apporter de la même manière, ce qu'Olivier va apporter, peut-être que moi, je ne pourrais pas l'apporter.
Ce que je trouve génial, c'est que, en fait, vous êtes très utile en prison, et on va en parler plus spécifiquement, mais vous êtes aussi très utile ici comme témoignage, parce que le protestantisme, bon, les luthéro-réformés se méfient des évangéliques, qui trouvent trop excités, les évangéliques trouvent souvent les luthéro-réformés trop tièdes, trop vieux, entre guillemets, trop peut-être dans les vieilles traditions, et là, au moins, vous rajeunissez un peu tout ça, enfin, vous dépoussiérez un peu tout ça. Vous le ressentez
Ouais, alors moi, je vais juste raconter un truc que j'ai vécu justement hier en prison, où justement, j'étais dans les couloirs, je me dirigeais vers la sortie. Et puis, il y a trois détenus qui passent, qui marchent à côté de moi, et puis ils me demandent qu'est-ce que je fais ici. Donc je réponds que je suis aumônier. Puis ils me regardent comme ça, ils me dévisagent, ils me disent on dirait pas. Et du coup, ils me disent vous avez pas la dégaine. Et moi, j'aurais dit, ah bon, je ne savais pas qu'il fallait avoir une dégaine d'aumônier. Et j'aurais demandé, alors ça ressemble à quoi, ça ressemble à quoi un aumônier ? Bon, après, chacun est parti de son côté. Mais voilà, enfin, pour dire qu'effectivement, il y a peut-être une image qu'on peut avoir des aumôniers qui, bon, encore une fois...
C'est un peu cliché.
C'est un peu
quoi.
Cliché, voilà. Et puis, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, donc...
D'accord. Donc, finalement, l'aumônerie, au moins, déjà, a lieu de rencontres entre les aumôniers de différentes sensibilités. Mais évidemment, ce n'est pas le but essentiel. Le but essentiel, c'est la rencontre avec les prisonniers. Alors, je voudrais qu'on présente ce monde carcéral. Pour le commun des mortels, la prison, c'est le lieu des méchants. Ils sont enfermés, on souhaite qu'ils y restent le plus longtemps possible. Et puis, nous, on est à l'abri de l'autre côté, on est les bons ou les gentils, enfin ceux qui sont pas, ceux qui n'ont pas fait de gros délits. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez par rapport à la prison ? Je suppose que non. Est-ce que vous pouvez nous...
Alors c'est vrai que c'est un peu les clichés qu'on a tous, nous-mêmes, avant d'être en prison, on avait les mêmes... même repère que la société. Donc c'est vrai qu'on a un peu ces images en tête parce qu'on voit beaucoup de séries, beaucoup de films. On a l'impression que c'est vraiment un monde à part, c'est vraiment des gens très dangereux. Et finalement, quand on passe du temps en prison, on se rend compte que c'est monsieur tout le monde. Alors, j'exagère, il y a des fois des situations où c'est pas monsieur tout le monde. Il y a des cas où, en effet, il y a des personnes qu'on rencontre qui ont fait des choses affreuses, atroces, qui sortent du lot, c'est vrai. Mais pour la majorité, disons, c'est des gens, quand on les côtoie, bon, déjà, ils nous racontent leur histoire, donc on sait ce qu'ils ont fait. Mais si jamais ils n'en parlaient pas et qu'on les aurait rencontrés dans un autre cadre, ça serait notre voisin, ça serait un collègue de boulot, par exemple, eh bien, on n'aurait même pas perçu que c'était une personne différente de nous. Donc, c'est vrai que c'est des gens tout à fait normaux et qui vivent finalement, OK, en détention, mais qui n'ont pas de grosses... si, la partie...
Alors, en général, le plus gros, c'est quoi leur... pourquoi ils sont en prison?
Alors du coup, alors on a fait quelques études pour avoir des chiffres à vous proposer. Donc d'après les statistiques de 2020, on va dire 30% sont en prison pour des vols, 20% c'est pour violence, 20% pour les stupéfiants, 10% pour homicide, 10% pour agression sexuelle, 7% pour infraction routière et 5% pour atteinte à l'autorité de l'État. Donc voilà, c'est assez divers et varié. Et c'est vrai que par exemple, tout ce qui est infraction routière, ben, n'importe qui d'entre nous pourrait se retrouver en prison en ayant bu sous l'état l'emprise d'alcool, ça peut arriver des fois, ou alors d'avoir un accident, voilà, et ça peut arriver à n'importe qui. Pareil, tout ce qui est des fois aussi les violences, voilà, les violences des fois on peut ne pas se contrôler et puis ça peut aller très vite. Donc c'est vrai que pour y a plein de personnes finalement. Voilà, qui peuvent se retrouver en prison ou alors qui ont détourné de l'argent dans le cadre de leur entreprise, tout ça. Ça peut aller très vite, en fait, hein, de se retrouver en prison. Et finalement, on rencontre des gens qui n'avaient pas du tout, qui n'avaient pas un parcours, un antécédent ou une vie qui les aurait menés à aller en prison.
Et est-ce que, alors c'est très difficile de savoir ça, mais est-ce que des gens se sont plaints d'être là à la suite d'erreurs judiciaires?
Alors c'est drôle, hein.
Ouais.
Enfin, tous les détenus se plaignent.
Oui. Oui, mais enfin, est-ce qu'il y en a qui vous semblent plus sincères que d'autres? Bon, je sais que c'est peut-être une question très, très
non,
subjective.
Non, parce que les gens ne savent pas. Nous, avant de venir en prison, on ne savait pas que les gens étaient tous innocents en prison. On l'a découvert en prison. Parce qu'à force qu'ils nous le disent. Donc...
C'est ça.
Et vous êtes évidemment sceptique puisque vous le dites tous. Donc, est-ce qu'il y en a que vous avez vraiment senti qu'il y avait un risque d'erreur judiciaire?
Alors oui, ça peut arriver. Il y a eu déjà des cas où ça arrivait. Là où c'est le plus compliqué, c'est quand c'est parole contre parole,
oui.
Notamment dans les violences conjugales.
Oui.
Ouais. Ou même, il y a beaucoup de détenus qui sont là pour accusation de viol, mais c'est leur conjoint qui les accuse de viol. Donc ça, c'est difficile de pouvoir faire la part des choses. Et nous, on ne peut pas juger ce qu'il en est. Après, quand même, la justice, elle fait quand même pas trop mal son travail, dans le sens... Souvent, les gens qui sont en prison, il y a quand même, c'est pas juste sur un quiproquo ou quelque chose comme ça. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que bon, le problème qu'il y a, c'est que les gens sont en prison. Il y a deux types de détenus. Il y a ceux qui sont les prévenus, donc qui sont pas encore jugés, et les condamnés.
Ah oui, vous êtes auprès des prévenus.
Les deux. Ouais, dans les maisons d'arrêt, il y a les deux. Mmh. Et parce que ceux qui sont condamnés restent encore quelques mois avant qu'ils aillent en centrale ou en CD, en centre de détention. Donc on côtoie les deux. Mais c'est vrai qu'on a peut-être majoritairement des prévenus. Et du coup, pour eux, c'est dur parce qu'ils ne sont pas encore jugés. Ils passent des fois des mois et des années en prison. Ils ne sont pas encore coupables, du coup. Et pour eux, ça, c'est dur parce que c'est vrai que le système français, qui est contraire, par exemple,
oui.
au système en Allemagne,
oui.
place les gens en prison avant même qu'ils soient déclarés coupables. Donc ça, c'est compliqué parce qu'ils doivent se défendre. Et alors, en prison, par contre, pour se défendre. Surtout si vraiment ils sont innocents ou même quand on veut plaider, parce que c'est difficile. Parce que là, du coup, ils n'ont pas les conditions pour vraiment plaider leur innocence. Après, ce qui est compliqué quand ils arrivent en prison, c'est que ils viennent pour un fait et la justice en rajoute d'autres faits. Et souvent, ils ne sont pas coupables de tous les faits qui leur sont reprochés. Ils sont coupables de certains et des fois, ils le reconnaissent. Et là, c'est vrai que le système fait qu'on en rajoute, on en rajoute. Et des fois, ça, c'est dur pour eux parce qu'ils sont là pour une accusation et finalement, ils se retrouvent avec 5 ou 6 accusations qui n'ont pas lieu d'être.
Et Samuel, en tant que jeune aumônier, donc vous débarquez dans ce milieu, est-ce que des fois vous êtes révolté par le système judiciaire français? Je suppose que vous avez un devoir de réserve, un devoir d'obligation. Vous ne pouvez pas critiquer le système, mais
ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que ça vous pose des fois des problèmes de conscience?
Alors, effectivement, bon, je pense déjà, j'ai fait la paix avec, avec tout ça, avec moi-même, justement, là, dans le sens où bon, l'injustice, elle existe. On vit dans un monde où l'injustice, on la rencontre tous les jours, hein, que ce soit en prison ou hors de la prison. Je pense que, justement, là-dedans, oui, quelque part, c'est révoltant, mais je pense qu'on vit, dans, voilà, comme je dis, dans un monde qui, de toute façon, peut être révoltant. Mais quand je dis que j'ai fait la paix avec ça, aujourd'hui, justement, à travers la foi et à travers une recherche spirituelle, j'ai pu trouver la paix aussi là-dedans, quoi. Donc, aujourd'hui, j'essaie d'apporter ce que je peux apporter au milieu de ces injustices. Et je pense que, justement, dans mon travail d'aumônier, c'est ce que j'y trouve. C'est-à-dire que moi, je peux pas... Je peux pas, moi, m'occuper de la justice, c'est pas mon rôle, mais je peux leur amener autre chose. Donc, ce que je peux leur amener dans la recherche spirituelle, dans la recherche de la foi, eh ben, je pense que c'est pour eux quelque chose de bon aussi, justement, dans cette recherche de justice. Et pour moi, voilà, c'est une justice spirituelle aujourd'hui qu'on peut amener dans, à ces personnes-là. Et c'est pour moi l'occasion aussi pour eux bah, de découvrir ces choses-là aussi, en fait, de s'ouvrir à ce domaine spirituel, à ce domaine de la foi, et à pouvoir justement, si la vie a été injuste avec eux et la société a été injuste avec eux, bah, peut-être qu'il y a autre chose à trouver aussi.
C'est un gros travail, ça, de faire la paix pour pouvoir supporter les injustices qu'on voit en face. Enfin, moi, je sais que j'aurais beaucoup de mal, j'aurais besoin d'une très longue formation pour pouvoir supporter. J'aurais envie de ruer dans les brancards et puis de démissionner, de dire, bon, vous avez réussi. Est-ce que la formation vous a aidé ?
Bah, je pense que c'est surtout la vie, en fait, hein, les choses auxquelles on est confronté chaque jour. Bon, moi j'ai 44 ans, j'ai ma petite expérience de vie jusqu'à aujourd'hui, et je pense que voilà, pour moi c'est vraiment encore une fois, hein, je dis c'est vraiment la foi qui m'a amené cette paix-là, qui m'a amené cette compréhension aussi des choses, et que finalement voilà, j'ai eu beau me révolter dans ma vie face à plein de choses, j'ai jamais eu vraiment, j'ai jamais vu de fruit finalement à cette révolte qui restait une révolte humaine et charnelle. Mais par contre, je pense qu'il y a encore une fois une justice spirituelle qui m'interpelle et qui me fait me dire ben peut-être que c'est ce que tu cherches finalement, c'est ce que je cherche. Et aujourd'hui, voilà, je préfère marcher dans cette justice-là plutôt que de continuer à me confronter à une justice humaine qui, de toute façon, est défaillante. Et l'histoire nous le montre, hein, a toujours été défaillante et sera toujours défaillante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir nos luttes et continuer à lutter pour la justice humaine. Mais je pense justement, à travers ce travail d'aumônier, c'est aussi ce que je trouve. C'est, bah voilà, on a le droit, en fait, on a ce droit-là d'aller en prison, de pouvoir parler avec ces détenus et leur apporter quelque chose. Donc je profite de ce droit-là aussi et j'essaie d'amener, encore une fois, les petites pierres que je peux amener, quoi.
Eh bien, à ce stade, on va faire une pause musicale et puis nous reprenons ensuite.
Do you remember how the words go to the song that we did today?
Christ has no body but yours.
Has nobody now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which he sees. Yours are the feet with which he Yours are the hands with which he blesses all the world. Yours are the hands. Thank you.
retrouvons avec Olivier et Samuel pour parler de l'aumônerie protestante, donc des prisons. Et on a vu que le système judiciaire était parfois vécu comme porteur d'injustice, et vous avez dit que vous ne pouviez pas vous occuper de régler les problèmes de la justice et que vous étiez là pour apporter vos petites pierres. Mm-hmm. Eh bien, on va parler de ces petites pierres. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous apportez aux prisonniers, Olivier ?
Alors, moi, durant la formation, quand j'ai fait la formation pour être aumônier, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'était d'anciens aumôniers qui disaient que l'aumônerie, c'est un ministère de l'inutile.
Et, du coup, l'inutile.
Ouais, de l'inutile. Alors du coup, c'était un article qui parlait de ça. Enfin, et du coup, je trouvais ça assez surprenant. Et en le lisant, j'ai compris, je me suis reconnu dans le témoignage de cet auteur. Et inutile pourquoi ? Parce que des fois, on se retrouve face à des situations où les gens nous racontent leur vie brisée, leur enfance brisée, comment ils en sont arrivés à commettre des délits qui les ont amenés en prison. Et ils ont pris souvent aussi des grosses peines. Et nous, on est là et puis on n'a pas les mots, en fait. On n'a pas les mots pour on ne sait pas quoi. On a beau être aumônier, on n'a pas les mots, on ne sait pas quoi leur dire, on ne sait pas quoi faire. On ne peut pas leur taper sur l'épaule et leur dire « Oh, ben, t'inquiète, ça va aller ». Ça ne serait pas de sens, même, ça serait... affreux de dire ça. Et du coup, là, on se rend compte à la fois de ce ministère de l'inutile où on ne sait pas quoi faire, et à la fois, là où c'est fort, c'est que ce ministère de l'inutile est finalement est quand même fort, parce que le fait juste d'être là, juste de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient, comme dit la parole, bah, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que d'être là, de compatir à ce qu'on entend, d'être une présence aussi, une présence finalement aussi un peu du Seigneur avec ses détenus, bah, c'est ça qui fait le charme et qui fait aussi la force de l'aumônerie, c'est d'aller dans un endroit où c'est assez compliqué, des fois ténébreux, mais quand même, il y a à travers de nous, à travers de ce qu'on peut vivre avec eux, il y a quand même le Seigneur qui est là, il y a quand même la lumière de Christ qui est là, et il se passe quelque chose dans l'invisible, et il se passe quelque chose même que nous, on ne comprend pas forcément. Et c'est ça finalement que j'aime beaucoup dans le ministère de l'inutile, c'est que humainement, on se sent démuni, et pourtant, il se passe quelque chose dans ce moment de la rencontre.
Et ces prisonniers, ces gens qui ont une part assez importante de noirceur, enfin au moins ce qui les a amenés en prison. Mmh. Samuel, vous les aimez, ces gens, vous les rencontrez, vous les...
J'apprends à les aimer, oui. Moi, j'apprends à les aimer et oui, on les rencontre. On les rencontre, on passe quand même du temps avec eux en visite. Donc, on rentre dans leur intimité, on rentre dans leur cellule. Il faut savoir que leur cellule, bah, c'est leur maison, c'est leur vie, c'est leur quotidien. Mmh. Leurs cellules sont vraiment petites. Il y a dans 9 mètres carrés, il y a tout. Hein.
C'est pas les trucs de luxe non. Dont parle l'extrême droite forte, dure.
Non, c'est rude, ouais, c'est rude. L'intérieur de la prison est quand même, c'est des conditions de vie qui sont vraiment très très dures, quoi. Donc on rentre déjà dans une intimité qu'ils ne peuvent pas cacher, disons qu'il ne peut pas y avoir de masque. Mmh. Donc il y a ce côté-là où en fait on rentre très vite en connexion avec eux. Mmh. Donc il y a très vite des rencontres qui se font, quoi. Mmh. Ils peuvent pas se cacher, de la même manière nous non plus on ne peut pas se cacher, on ne peut pas jouer parce que leur condition ne nous le permet pas, quoi. Mmh. Donc il y a effectivement des rencontres qui se font, et oui, je pense qu'il y a quelque part un lien fraternel qui se tisse. Et encore une fois, je pense que justement la fraternité, c'est aussi le fait de partager la même foi, de partager la même recherche. Et je pense que Dieu nous unit autour de ça aussi, et Dieu nous permet justement de pouvoir développer ces liens fraternels avec eux. Ouais.
Et alors vous les rencontrez donc dans votre cellule, vous rentrez chez eux, mmh, d'une certaine, mmh, façon. Et sinon, qu'est-ce que vous organisez, des cultes, des, mmh, rencontres, comment ça se passe, votre mission, entre guillemets?
Voilà, donc on a deux missions, enfin plus, on va dire deux missions si on devait un peu généraliser. Il y a le côté social où justement on va dans les cellules, alors on visite des détenus qui ne sont pas forcément tous avec la foi. En fait, on est là pour aller à la rencontre des personnes qu'on rencontre, que des fois qu'on croise dans les couloirs, ou bon, il y a une surpopulation carcérale qui fait qu'ils sont souvent deux ou trois, même des fois quatre dans une cellule. Donc forcément, même si on vient pour voir un croyant, on est face à deux ou trois autres qui ne sont pas forcément croyants. Il y a aussi beaucoup de musulmans, d'autres religions. Et donc il y a ce côté, comme a dit Samuel, relationnel, où on va dans leur cellule, on va chez eux en fait. Donc ça, c'est le côté un peu humain. Et après, il y a le côté plus spirituel, où on organise en effet des cultes, donc le dimanche matin, un dimanche matin sur deux. On a la tendance avec les catholiques, il y a une fois une messe et une fois un culte. Donc ça, c'est dimanche matin. Et dans la semaine, deux fois dans la semaine, on a des groupes de parole, où là, c'est en plus petit comité. Les cultes, on est une quarantaine, et dans les groupes de parole, ils sont plutôt une dizaine. Et là, en fait, on étudie, on prend un passage de la parole. Déjà, c'est un moment d'accueil où chacun peut se retrouver, on peut échanger sur ce qu'ils ont vécu dans la semaine. Et puis, c'est un moment où on partage aussi la parole de Dieu. Et on peut, à la fois, ils peuvent échanger, ils peuvent écouter, ils peuvent poser leurs questions. Et c'est vraiment un temps d'enseignement où ils sont, souvent, ils connaissent, pour la majorité, ils ne connaissent pas trop la Bible. Donc, c'est vraiment un temps où ils peuvent découvrir. Et souvent, c'est un peu leur catéchisme à eux en prison. Et finalement, on a beaucoup de personnes qui, s'ils n'étaient pas passés par la prison, ils n'auraient jamais ouvert la Bible. Et donc, ça, c'est finalement assez incroyable. Et après, dans les temps de culte, ça ressemble un peu à un culte traditionnel où on a un guitariste qui prend des chants. On a aussi, on prend un texte aussi, on lit la parole de Dieu. On essaie aussi de faire des petits groupes, de faire quelque chose d'assez intime pour que ce ne soit pas juste un temps où ils écoutent, mais aussi ils peuvent partager. Parce qu'en prison, c'est très, très important qu'ils puissent partager. Et voilà un peu toutes les activités qu'on peut faire.
Et vous n'avez pas le sentiment d'être accepté parce que vous apportez un vent de l'extérieur plutôt que parce que vous apportez Dieu?
Les deux, ouais. C'est vrai que les détenus apprécient beaucoup les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ils sont entre eux. Entre eux, l'ambiance, elle n'est pas forcément... Ils parlent beaucoup de leur affaire, ils parlent beaucoup de cigarettes. Ça, c'est le plus grand sujet de discussion. Est-ce que tu aurais une cigarette?
Ouais.
Et du coup, ils parlent beaucoup, ça tourne un peu en boucle, en rond. Et quand ils reçoivent des gens de l'extérieur, c'est en effet une bouffée d'oxygène parce que du coup, on ne parle pas de ce qu'ils parlent avec les autres détenus. Donc ça, pour eux, ils apprécient beaucoup. Même ceux qui ne sont pas croyants, même ceux qu'on croise dans les couloirs. Et à la fois, du coup, nous en tout cas, on a vraiment cette approche quand on vient vers eux, c'est déjà de s'intéresser à eux avant même de parler de religion. Et la religion, c'est vraiment après quelque chose d'intime, quelque chose qui se passe dans un second temps pour ceux qui le veulent, parce que tous ne sont pas forcément, sont pas forcément intéressés. Enfin, même les croyants ne sont pas forcément des fois très intéressés de parler beaucoup de Dieu. Donc des fois, même des gens qui sont croyants, on va plus parler de leur vie, de leur futur, de leur famille, de ce qui, plutôt que de parler de religion. Et du coup, c'est finalement le fait qu'on soit des aumôniers envoyés en prison. Finalement, Dieu est un peu, pas un prétexte, je dirais pas jusque-là, mais un peu un moyen pour rentrer. Et finalement, il se passe beaucoup plus de choses que même ce qu'on peut l'imaginer. Et ça, c'est super riche.
Et je pense aussi que de leur part, il y a aussi une curiosité de pourquoi on vient les voir. C'est-à-dire qu'ils savent bien qu'on a d'autres choses, qu'on a une vie de famille, qu'on a tous des vies quotidiennes. Donc, si on vient les voir, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui nous pousse aussi à venir les voir. Donc, ils sont aussi interpellés par ça. C'est-à-dire que il est clair pour moi qu'on va les voir parce qu'on a, cette foi et cette recherche de partager notre foi. Et ça, ils s'en rendent bien compte. Ils le savent. Donc, même si sur le moment, ils ne sont pas forcément ouverts à ça, il y a quand même, je pense, cette compréhension des choses. Ils sont reconnaissants. Il y a énormément de reconnaissance. Ouais.
Et ils sont touchés par le fait qu'ils se sentent isolés, ils se sentent faibles, ils sont là en prison, ils n'ont plus de voix, ils n'ont plus de contact avec l'extérieur. Et que quelqu'un prenne soin d'eux. Ça...
Ah oui, complètement. Oui.
Ouais. C'est vrai que certains n'ont pas de parloir famille. Bon, certains, ils en ont, mais pas tous. Ils ont des fois le contact avec le téléphone. Bon, plus ou moins. Mais ouais, souvent, ils ont quand même le téléphone. Ça, en principe, ils l'ont. Mais rencontrer quelqu'un en présentiel, ça, ils n'ont plus. Et finalement, que ce soit à la fois les psychologues, où ils peuvent un peu se confier, ils peuvent partager leurs soucis, et nous, ils n'ont pas trop d'espace. Donc, pour eux, c'est vraiment un moment d'oxygène, de pouvoir parler avec quelqu'un qui ne va pas nous juger, quelqu'un qui ne va pas... les paroles qu'ils vont dire ne seront pas interprétées ou ne seront pas, vont pas jouer en leur défaveur. Ça, c'est très rare en prison. Et tout être humain a besoin, en fait, de vivre des relations amicales. Et en prison, ils en sont privés.
Donc, et est-ce qu'entre eux, ça solidifie leur groupe? Ceux qui viennent, par exemple, dans des groupes de parole ou dans les cultes, est-ce que vous avez l'impression que même quand vous êtes partis, vous avez changé les choses?
Oui, c'est vrai que ça crée un esprit de famille, en fait. Le fait qu'on se rencontre, par exemple, dans les groupes de parole, tous les gens qui viennent, même les nouveaux qui arrivent, ils se disent, mais on sent une atmosphère différente, mmh. une atmosphère bienveillante, une atmosphère où les gens ne se jugent pas. Et donc ça, ils apprécient beaucoup. Les cultes, c'est pareil, c'est des temps assez fraternels. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on a commencé une fois à prendre un détenu dans les bras, à faire un hug. Ce qui est pas
vous avez le droit ?
Je sais pas. Mais on le prend.
D'accord. Et j'espère que personne ne nous écoute. Là. Pour une fois, je voudrais que l'audience soit c'est ça, la plus faible possible.
Non, mais ils le voient, ils le savent. Ouais. Mais du coup, c'est devenu une culture. Et maintenant, je dis pas qu'on le fait avec tous, mais avec beaucoup, en fait, on se prend dans les bras. Et même eux, entre eux, ils se prennent dans les bras. Mmh. Ce qui est assez extraordinaire en prison, parce que c'est pas du tout la culture de se prendre dans les bras. Mmh. Et du coup, ça montre qu'il se passe quelque chose dans ces temps de rencontres.
Et puis, je pense qu'il y a aussi, c'est en quelque sorte une mini-société aussi dans la prison. Donc, il y a leurs règles, il y a vraiment un mode de vie qui s'est installé. Ouais. Quoi. Et donc, je pense qu'aussi, on participe quelque part à ça. On participe aussi à amener quelque chose peut-être de différent dans ce qu'ils ont l'habitude de vivre chaque jour. Et je pense que ça, c'est important aussi pour justement cette mini-société qui se tient à l'intérieur de cette prison. Quoi.
Et alors, quand on en parlera une prochaine fois, on développera une prochaine fois, mais là, je voudrais juste terminer là-dessus. Quand ils sortent, est-ce que leur vision de ce qu'ils ont vécu, est-ce que ça a changé quelque chose, votre présence ? Est-ce que vous le savez ? Alors, en deux, une minute, deux minutes, hein, une minute et demie, disons.
Alors, beaucoup nous disent... en fait, ils veulent aller dans un temple, ils veulent aller à l'église. Ils nous disent « Ah, vous connaissez les temples ?» parce qu'ils sont de plusieurs régions de France. Et ils nous disent « En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand je sors, je vais aller à l'église, c'est sûr et certain. » Et on sait, parce que certains, on a encore quelques contacts, qui le font. Et du coup, on est heureux de voir que cette foi les a tellement touchés qu'ils veulent le vivre aussi à l'extérieur. Et ça, c'est notre plus grand trésor aussi. Donc plusieurs sont devenus pratiquants. Avant, ils n'étaient pas forcément. Et ça, oui. Alors, je ne peux pas dire que c'est pour tous, mais en tout cas, pour certains et pour quand même une certaine partie, c'est vraiment le cas.
Et vous aussi, Samuel, vous avez la même expérience ?
Oui, je pense que on a des témoignages justement de détenus avec qui on a pu rester en contact, qui ont continué dans leur cheminement de foi, et c'est vrai que c'est très encourageant. Alors sûrement pas tous, hein. Maintenant, encore une fois, nous, notre rôle, c'est de semer des graines. Maintenant que les graines, elles prennent tout de suite racine ou qu'elles prennent racine dans 10 ans, après ça, c'est à chacun, c'est le chemin de chacun.
Donc. Alors, je signale aux auditeurs que nous avons eu une émission dans la série Thème et Anathème, donc déjà sur la prison avec Samuel. Donc, si vous voulez la réentendre, vous allez sur le site de la radio et vous tapez dans la barre de recherche Thème et Anathème, prison, et vous tomberez dessus. Sinon, vous pouvez vous adresser à la radio. Vous pouvez vous adresser soit à contact@radiofmplus.org ou alors aux émissions protestantes, donc spécifiquement un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org, tout ça attaché bien sûr, hein. Voilà, je remercie Olivier Villebrun et Samuel. Merci. Wagner de nous avoir animé cette première matinale sur les prisons, et on se donne rendez-vous dans 2 mois. Au
revoir. Merci Yolande.
Au revoir.